Le dimanche qui avait précédé son attaque, Léon, aux côtés de Marie-Noël, avait prêté la plus grande attention à l'évangile du jour, celui de Matthieu au chapitre 20. Plein d'enthousiasme, il s'était écrié à la sortie de la messe sur la place de l'église, sans crainte aucune de ses opposants politiques. « Même salaire, quel que soit le travail, les derniers seront les premiers. Voilà ce que j'aime dans notre évangile. Vous avez vu la justice de Dieu ? Que tout le monde puisse manger et avoir le minimum de confort, le SMIC pour tous et la même somme pour les handicapés, pour les personnes seules, pour les patrons et pour les chômeurs. Alléluia, allez hop ! Les riches, videz vos poches et mettez tout sur la table. On partage votre fric immérité. » Il n'était pas possible pour Madame Brissac de la Cournelière de lui laisser dire des âneries pareilles. Elle se fit un passage au milieu des admirateurs de Léon et l'apostropha. « Vous exagérez, Monsieur Fruchot, cette pièce d'argent pour tous, c'est une vision pour le ciel et non pas pour cette terre, il n'y a pas à en discuter. » Et voilà, les revoilà les bonimenteurs de droite, Madame Brissac, avec tout le respect que je vous dois, à vous qui êtes ma sœur en Christ, vous vous mettez le doigt dans l'œil. C'est pour cette vie aussi que Jésus parle. Votre travailler plus pour gagner plus, à la trappe. Tout le monde a droit à une retraite décente, même s'il n'a pas travaillé. Moi, je l'embrasse sur les deux joues, Jésus, d'avoir dit ça. Vous manquez cruellement de connaissances exégétiques, Léon. Étudiez un peu, et vous verrez que ce n'est pas si simple, fit Madame Brissac, qui, faisant volte-face, s'éloignait déjà en affichant ostensiblement cet air pincé et hautain qu'on lui connaissait bien dans la paroisse, et qui signifiait tout simplement que, connaissant la vérité, elle ne voulait pas perdre son temps à discuter avec des ignares. Le coup était bas, mais ne désarma pas Léon. À l'intention du public de pratiquants de tous bords restés sur la place de l'église pour profiter de la joute orale de leurs confrères baptisés, il ajouta « Je sais bien que cet évangile-là, ça fâche ceux qui votent à droite. Mais que voulez-vous, Madame Brissac ?» fit ironiquement Léon en forçant la voix. « Si Jésus est de gauche, vous ne pouvez rien y faire !» Et, criant presque en direction de l'adversaire qui s'éloignait, raide et pincé, il ajouta, consciemment mais un peu méchamment, la réplique qui allait dépasser les limites du supportable pour Madame Brissac de la Cournelière. « On sait bien que vous avez une affection particulière pour Marine Le Pen, comme vous en aviez une pour son père, Jean-Marie le Facho !» La réplique appuyée faisait allusion à deux autres personnages de cette époque qui se situaient franchement à l'extrême droite de l'échiquier politique. L'offense était claire et nette. Madame Brissac de la Cournelière, presque arrivée devant l'auberge Tournon où elle avait garé sa voiture, s'arrêta et fit volte-face. Marchant à grands pas, elle fendit la foule et se planta devant Léon, les poings sur les hanches, visiblement à bout de nerfs. Elle qui se maîtrisait habituellement si bien. Dans un effort surhumain, elle réussit à retenir les invectives frôlant l'injure qui lui montait aux cordes vocales. Elle prit trois longues respirations, puis, levant la tête pour fixer bien au fond des yeux Léon Fruchot, elle lâcha les dents serrées. « Sachez, monsieur Fruchot, que je ne vote pas pour les extrêmes, moi !» Et puis, cette Marine Le Pen n'a pas enfermé des millions de personnes dans les goulags où ils sont morts de faim ou suppliciés par les amis de votre Mélenchon. La répartie était bien ajustée, cinglante à point, historiquement juste, hormis peut-être l'incapacité de connaître l'exacte position de Jean-Luc Mélenchon. Allait-il jusqu'à défendre Staline et sa dictature ? En ce qui concernait le combat contre les idées d'extrême droite et les positions de Marine Le Pen, Léon Fruchot avait préparé depuis trois semaines une contre-attaque longuement mûrie qu'il attendait d'insérer le moment venu. Et le moment était venu. Enfin, c'était du gâteau, une autoroute qui se déroulait devant lui. Léon allait pouvoir placer la référence, celle qu'il se gardait en mémoire depuis exactement 21 jours. Madame de la Cournelière, qui défendait si bien Madame Le Pen, que faites-vous du passage de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 34 à 46 ? Le coup était sévère pour celle qui se targuait d'être une excellente exégète, et René Brissac vacilla. Elle attendit que le questionneur lui révèle le contenu de ses versets, mais elle comprit, en observant les yeux malicieux de Léon Fruchot, qu'il ne dirait pas un mot de plus, et donc qu'il ne lui fournirait aucun renseignement concernant le passage cité. Devait-elle s'abaisser à demander des explications ? Avalant sa salive, elle trouva une réplique qui ne la ferait pas descendre trop bas. « Je parie, monsieur Fruchot, que vous avez passé 3 jours à apprendre par cœur cette référence. » Ce n'était pas faux. Elle continua, un peu vulgairement, ce qui trahissait son énervement. « Allez, accouchez donc !» Levant la tête vers le ciel et y mettant tout son cœur, Léon récita, en arrangeant les versets à sa manière, mais en respectant scrupuleusement le texte de l'Évangile. « Quand le Fils de l'homme reviendra à la fin des temps, il dira « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, venez les bénis de mon Père !» Puis il s'adressera aux autres en leur disant « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel, préparé pour le démon et ses anges, car j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli !» Les paroissiens pratiquants qui s'étaient attroupés autour de Madame Brissac et de Léon furent subjugués par la tirade. Le texte de l'Évangile récité par cœur, la déclamation puissante et pleine de foi de l'orateur, fait la main sur son cœur, les yeux au ciel, les laissait bouche bée, admiratifs, presque dévots. Même Madame Brissac ne trouva rien à répliquer. Elle ne pouvait pas contredire une parole du Christ. De plus, Jésus, dans ce texte, ne précisait pas combien d'étrangers on se devait d'accueillir. Le connaissant, lui, et ses exagérations habituelles, il aurait certainement répondu « tous, sans exception ». René Brissac réfléchit un instant, puis décida de jouer franc jeu. À la surprise de ses amis, et sans plus polémiquer, il répondit « sur ce point, Léon, nous nous entendrons ». Car nous sommes des baptisés tous les deux. Et voyez-vous, c'est pour cela, contrairement à ce que vous croyez, que je ne voterai jamais pour Madame Le Pen. Elle est raciste. Je suis même certain qu'elle n'aime ni Jésus, ni la Vierge Marie, ni les apôtres, parce qu'ils sont juifs. » En observant la bouche ouverte et pendante de Léon, le public comprit qu'il venait d'être à son tour cueilli par la surprise. « Là, René, vous avez mon admiration. » répondit étonnamment Léon. Saisissant les doigts de son adversaire, il lui fit un baise-main, dans un mouvement gracieux qui alliait élégance et rondes jambes. René Brissac ne se dégagea pas, car le geste était empreint d'humour, de gentillesse, voire d'un peu de tendresse fraternelle. Elle sourit, et l'assemblée, quant à elle, fut prise d'un franc et décontractant éclat de rire. La joute se terminait dans la bonne humeur, une bonne humeur bienveillante et débonnaire. C'était un beau dimanche qui commençait. Sur la place, un certain nombre de paroissiens se grattaient la tête. Ils venaient de réaliser que Jésus et presque tous les saints dont les statues trônaient dans l'église étaient juifs, ce qu'ils avaient totalement oublié. Ils en déglutirent de surprise ou se grattèrent la tête afin de réajuster leurs connaissances bibliques. Parmi eux, des pratiquants extrêmes dans leurs pensées droitisantes, souvent les plus vieux, qui n'avaient rencontré que 2 ou 3 personnes jaunes ou noires dans leur vie, firent semblant d'approuver la répartie pro-juive de Madame Brissac de la Cournolière, ainsi que celle de Léon Fruchot concernant l'accueil des étrangers. Dans leur fort intérieur, toutefois, ils se disaient qu'à l'évidence, Marine Le Pen possédait du bon sens et qu'il fallait bien protéger la patrie. Oui, bon. Cela dit, pesant le pour et le contre, il subsistait tout de même le démon et ses anges, ainsi que le feu éternel. Ce n'était pas rien, et il n'avait aucune envie d'y goûter. Eh bien, il ne voterait qu'à droite cette fois-ci, et pas à l'extrême. Avec René Brissac pour allié, ce jour-là, Léon Fruchot réussit un coup de maître. En quelques minutes, le Front National venait de perdre 7 voix dans la commune de Saint-Juvilly-les-Eaux. Quand les chrétiens de droite eurent tourné les talons, Léon apostropha les copains qui restaient sur la place. « Je vous paie une tournée à l'auberge Tournon pour arroser l'évangile d'aujourd'hui !» À cet instant, émergeant de la rue Georges Pompidou, roulant placidement, s'engagea sur la place la nouvelle Audi rouge R8 Spider 5.2 FSI Quattro, excusez du peu, de Philibert Grandin, directeur de la Belle Chaussure. Craignant sans doute qu'on ne remarquât pas assez son rutilant véhicule, le conducteur donna de petits coups d'accélérateur qui firent rugir la décapotable sport. Léon s'étrangla d'indignation. Son visage présenta une couleur oscillant entre le vert pomme et le vert Shrek, tandis que ses verres de lunettes ne retinrent que de justesse les globes de ses yeux sortant de leurs orbites. Sans un mot, le groupe suivit la trajectoire de l'Audi qui vint tranquillement se garer devant l'auberge Tournon. Sifflotant, fier de lui, Philibert Grandin descendit de sa voiture, puis il ôta d'un geste désinvolte ses lunettes de soleil pour les glisser dans la pochette de sa veste sport. « Pouah !» fit Léon Fruchot à la manière de Mère Simpson et en crachant par terre. « Une grosse bagnole neuve d'esclavagiste qui doit coûter plus de 40 000 euros, volée sur le dos des petits comme nous !» Léon Fruchot n'était pas loin de la vérité, à ceci près que le véhicule en question avait été acheté par Philibert Grandin pour la modique somme de 137 000 euros, soit l'équivalent de 10 années de salaire net de Léon Fruchot. La colère du syndiqué s'intensifia et son passage à la couleur vert bouteille laissa présager le pire. Alors que Philibert Grandin posait sa main sur la poignée de porte permettant l'accès au côté café de l'auberge Tournon, d'une voix bien articulée, Léon persifla dans sa direction. « Voici la figure exacte du profiteur, celui pour qui Jésus s'exclame « Malheur à vous les riches !» Léon omettait de signaler qu'il se saisissait de l'ancienne traduction. La nouvelle adoucissant par charité sans doute, l'expression faisant dire au Christ « Malheureux êtes-vous les riches !» Les amis de Léon restèrent pantois devant son audace. Eux, ils avaient simplement admiré la voiture, sans avoir réfléchi à l'origine du capital qui avait permis un tel investissement. Et là, leur copain Léon, syndicaliste et chrétien pratiquant, les incitait à augmenter la température de leur ménage pour qu'en émerge un début de conscience politique. L'ouvrier Fruchot se laissa aller à faire mieux, ou pire, car, n'ayant plus peur de rien et à 6 jours de sa retraite, d'une voix forte, il s'exclama sur la place, sans aucune crainte d'être entendu, « Malheur à vous les riches, vous avez votre consolation! Malheur à vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim !» À l'imperceptible pause que marqua Philibert Grandin en plaçant son pied sur la dernière marche qui l'introduisait dans le café, tous comprirent qu'il avait très bien perçu la tirade. Un frisson parcourut les camarades. « T'es fou, Léon, il a entendu le patron !»« Et alors, vous croyez que ça m'impressionne? Le temps de l'esclavage est terminé! Allez hop, nous aussi, tous au bistrot !»« Tu crois ?» questionnèrent en chœur les 12 rescapés de l'Eucharistie, qui faisaient encore cercle autour de Léon. Le doute, une légère crainte, voire un vrai début de trouille les avait saisis. « On arrose l'évangile du jour, chose promise, chose due !» Ce fut lui, Léon, qui pénétra le premier dans le café, suivi par les 12 qui tentaient de se cacher un peu derrière lui. Monsieur Grandin s'était logé dans le fond, à une table solitaire, et il dépliait devant lui un journal pour y consulter la page de la bourse. Éric Tournon poussa 3 tables pour les accoler et permettre au groupe de se retrouver ensemble. Puis il apporta 2 bouteilles de rosée de Loire que les paroissiens n'avaient pas eu la peine de commander. C'était l'habitude, après la messe, à Saint-Juvilly-les-Eaux, les baptisés catholiques de sexe masculin buvaient du rosée de Loire. « C'était quoi déjà l'évangile d'aujourd'hui ?» fit Bernard Morse. Il ne l'avait pas écouté, car il avait passé son temps à rechercher sa partition de l'Alléluia, mystérieusement disparue. Pour finir, il l'avait retrouvé sous ses pieds, coincé entre les notes La et Si bémol du pédalier. Ses confrères, les 11, lui firent « Chut !» Mais trop tard, ce qui devait arriver arriva. D'une voix forte et explicite, Léon Fruchot lui donna la réponse. « Les premiers seront derniers, et les derniers seront premiers !» À l'auberge Tournon, dans sa partie bistrot, un léger temps de silence glacial se fit, interrompu par le rire tonitruant d'Éric Tournon, qui avait deviné l'enjeu de la tirade. Il se retourna vers Philibert Grandin en disant « Oh, Philibert, c'est pas pour toi, ça ?» Le regard noir que lui lança le patron d'usine le fit tout sauter et reprendre l'essuyage de son comptoir. Léon Fruchot s'était mis debout et il lança le verre à la main « À la santé des pauvres ouvriers qui se fatiguent toute leur vie pour un salaire de misère, alors que monsieur les riches se pavanent en gros saudis !» Aucun des 12 n'osa trinquer, et le torchon d'Éric Tournon se mit à lustrer comme jamais le formica de son bar. Un silence sibérien emplit la salle. Puis, une petite mélodie discrète se fit entendre. Léon Fruchot faisait tourner le rosé dans son verre et, tout en louchant sur les vaguelettes tourbillonnantes du vin, il sifflotait le temps des cerises. Le grincement des pieds d'une chaise sur le carrelage se fit entendre. Philibert Grandin s'avança, un verre de scotch Glenkitchy 20 ans d'âge à la main, jusqu'à la table de Léon Fruchot. Il se plaça devant lui et lança « Tu me cherches, Léon ?» « Monsieur le riche daigne s'avancer jusqu'à la chaumière des pauvres ?» Les 12 compagnons précédemment tétanisés commençaient à trembler. « Si c'est pour ma voiture toutes ces simagrées, sache, Léon, que c'est grâce aux fruits de mon travail que je l'ai acquise, grâce aux très bonnes affaires que j'ai faites en bourse !» répliqua Philibert Grandin, l'index levé, sentencieux, sûr de lui. Ce qui était supposé entraîner une baisse de colère de l'ouvrier ne fit que produire son effet inverse. Rien n'élevait plus la température de Léon Fruchot que d'entendre les mots « bourse, actionnaire, dividende ». À cet instant précis, un thermomètre aurait été placé sous son aisselle, que son observation aurait permis de constater que la trace argentée du mercure s'arrêtait sur le trait rouge, signifiant que les 41 degrés Celsius venaient d'être atteints. Concernant le taux de pression, il atteignit 6 bars. Le point de rupture de Fruchot était dépassé. Rien, donc, ne put retenir sa digue intérieure qui vola en éclats. La catastrophe survint avant que quiconque pût réagir. Le poing de Léon s'écrasa sur le nez de Philibert qui pissa le sang alors que son verre de Glenkitchy s'écrasait sur le carrelage. La riposte fut tout aussi vive et Grandin se précipita sur Léon pour lui décocher un coup de boule sur l'arête du nez. Il enchaîna par un enserrement du cou de ses 2 larges mains auxquelles Léon répliqua par un lâcher de genoux avec orientation testiculaire. L'élan et la colère produisirent la chute des 2 bientôt sexagénaires, qui furent emportés par leur poids et se retrouvèrent sur le sol. Là, ils continuèrent à s'administrer moult coups dont les cibles s'avéreraient être bleuies à point dès le lendemain matin. Bernard Morse et Éric Tournon s'étaient enfin réveillés. Ils furent les seuls à oser se mêler à la rixe. Ils arrivèrent avec peine à séparer et à relever les 2 combattants. Les clés au bras qu'ils appliquèrent aux belligérants pour les maîtriser n'empêchèrent pas les invectives de continuer. « Pauvre crétin sans cervelle, sale spéculateur, bouseux de campagne, esclavagiste, pecno inculte, fumier de profiteur, minable syndiqué, vendu au capital !» Cela suffisait. Éric Tournon fit appel à son chef cuisinier, Bernard Goulot, qui, avec ses 110 kilos, n'eut aucun mal à extraire de l'auberge, l'un après l'autre, les 2 adversaires qui s'enfuirent, chacun de leur côté, vers leur domicile respectif. « Ce n'est pas le Léon que je connais, ni celui que j'aime. » boudait, bras croisés, Marie-Noël, campé devant son époux. Léon n'était pas fier de lui, il baissait la tête sans rien dire, mais personne n'aurait pu le faire changer d'opinion quant à son appréciation de Philibert Grandin. Il trouvait même sa colère éminemment justifiée. Néanmoins, il ne pouvait pas être fier de lui. Il s'était laissé entraîner jusqu'à la violence. Il avait porté des coups, et là, oui, l'exagération était notoire et intrinsèquement non évangélique. Léon alla se coucher sans prendre sa bière habituelle, et n'arriva désespérément pas à trouver le sommeil. « Tu as voulu étrangler Monsieur Fruchot ? » « questionna surprise la mère de Philibert. « C'est un brave homme, et tu as été avec lui en primaire, dans la même classe. Qu'est-ce qui t'a pris ?»«
C'est lui qui m'a cherché, il est devenu complètement fou. »«
Et toi, à le narguer avec ta grosse voiture ?»«
Quoi ? On n'a plus le droit de profiter de son argent ?»«
Tu n'as pas à être fier des coups de poker gagnants que tu as risqués avec l'argent de la fabrique. »
Il était mis à jour. Sa mère avait deviné que c'était en se servant de la trésorerie de l'entreprise que son fils avait pu spéculer et gagner. La mise perdue, c'est l'entreprise qui se serait retrouvée en faillite. Décidément non, Philibert Grandin n'avait pas à être fier lui non plus. Il se coucha sans boire son dernier Glenkitchie 20 ans d'âge et n'arrivait